au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Lundi 8 décembre, j'espère que vous avez passé une belle journée, mais très, très froide. C'est quoi là présentement? On a moins 14 au cœur de Lanaudière. À l'émission aujourd'hui, Céline Gauthier, directrice générale de Moissons Lanaudière, avec qui on aura l'occasion de faire le bilan de la guignolée des médias dans Lanaudière. Pierre Paquette sera avec nous. On va revenir sur la course à la chefferie de Pablo Rodriguez et de ses bonnes connaissances là, qui ont reçu 1 000 $. Claude-Éric Provost sera avec nous. Il est directeur général de la nouvelle société. On va parler du marché de Noël de l'île des Moulins dans Terrebonne. Isabelle Perrault avec nous aussi, préfète de la MRC de la Matawinie. Il sera question d'une entente de collaboration scientifique avec l'Université du Québec en Outaouais. Yves Perron, député bloquiste de Berthier-Masquinongé, sera là pour parler de la hausse du coût de l'épicerie. Mais tout d'abord, on va parler avec Mathieu Bélanger. Vous avez peut-être vu hier sur le plateau de Tout le monde en parle, hier soir, Paul Saint-Pierre Plamondon qui a avoué avoir utilisé des mots trop durs pour avoir critiqué l'accueil favorable qu'a réservé le monde culturel au nouveau ministre fédéral Mark Miller. Et mercredi passé, il avait dénoncé la vacuité intellectuelle et l'aplavantrisme des représentants de la culture. François Morin en a discuté avec Mathieu Bélanger un peu plus tôt aujourd'hui.
Mathieu Bélanger, donc Paul de Saint-Pierre Plamondon, qui est allé hier soir, Tout le monde en parle, d'excuses à l'endroit du monde culturel. Est-ce qu'on peut dire que faut avouer ta demi-pardonnée?
On peut l'imaginer. Ces déclarations ont fait beaucoup réagir lorsqu'il déclarait qu'une partie substantielle du milieu culturel faisait preuve d'aplavantrisme devant le fédéral, si je résume un peu ses propos, suite à la nomination de Mark Miller comme nouveau ministre de la Culture au niveau de l'identité canadienne, pour prendre les bons termes, là, au niveau, justement, fédéral. Oui, faut avouer, t'as à moitié pardonné. Il a pu s'exprimer un peu plus, apporter certaines nuances dans les médias, notamment à Tout le monde en parle hier, préciser sa pensée, finalement. On peut imaginer que comme ça, du moins au niveau du milieu culturel, il va peut-être avoir une certaine méfiance encore à son égard, mais on peut pardonner quand même. Cela dit, ces déclarations hier à Tout le monde en parle concernant, par exemple, l'indépendance de Radio-Canada lui-même va quand même continuer à créer certains soubresauts qu'on peut imaginer pour une partie du milieu culturel au courant des prochains jours à tout le moins. Et ce que ça met, c'est un des éléments que tu as abordé hier dans l'émission de Tout le monde en parle, c'est ce que Paul Saint-Pierre Plamondon lui-même qualifie de spontanéité, mais ce que ses adversaires ont déjà qualifié de caractère soupe au lait, où Paul Saint-Pierre Plamondon parfois fait des déclarations ou prend des positions qui semblent intransigeantes dans un domaine, la politique, où les compromis sont souvent nécessaires. Et ça va être une partie de sa personnalité qui va être en test d'ici l'an prochain, particulièrement dans la prochaine campagne électorale, puisque les électeurs vont devoir se demander justement, ben est-ce qu'on veut une personne comme ça comme premier ministre ou pas? Présentement, les sondages disent que oui, mais plus on va avancer dans le temps, plus on va être proche de la prochaine campagne électorale, plus les électeurs, les électrices vont pouvoir se poser la question de façon plus précise, vraiment voir avec attention. Et on verra, on voit finalement que par cette controverse-là, que sa personnalité à Paul Saint-Pierre Plamondon peut parfois lui jouer des tours. Reste à voir à quel point ça peut lui nuire ou pas. Pour l'instant, sentir, mais résultant de ces prochaines élections.
Parce qu'on se rend bien compte, on le dit souvent en politique, il faut contrôler le message, mais là, dans son cas aussi, il faut aussi contrôler le messager.
C'est souvent là, une caractéristique de beaucoup de politiciens où les conseillers du politicien et de la politicienne lui disent « là, fais attention à ce que tu vas dire ». C'est vrai aussi, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est fait connaître comme politicien, comme chef du Parti québécois, avec des déclarations, avec une posture très, très franche, très direct et qui sortait des sentiers battus. On se souviendra, par exemple, de son combat suite aux dernières élections provinciales pour ne pas prêter serment au roi et de dire qu'il n'allait pas siéger comme député après l'élection, qu'il n'allait pas siéger comme député tant aussi longtemps qu'on l'obligerait à prêter serment au roi. Et son combat a fait en sorte qu'il a pu gagner son pari, c'est-à-dire qu'avant même qu'il commence à siéger, on a changé la loi pour retirer ce serment-là, mais aussi ça l'a mis sur la map. lui qui était arrivé un petit peu comme député par un concours de circonstances particuliers. On se souviendra lors de la dernière campagne électorale, la candidate de Québec solidaire qui avait dû se retirer à la dernière minute, qui avait pavé la voie à l'élection de Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais après, il y a eu un amour avec cette question-là du serment du roi. Au roi, il y a eu un amour qui s'est construite envers Paul Saint-Pierre Plamondon avec la force des convictions. Donc, on reconnaît cette qualité-là à Paul Saint-Pierre Plamondon, mais comme beaucoup de qualités, lorsqu'elle a trop, ça peut conduire à des défauts. Et là, c'est ce qu'on a vu au courant des derniers jours.
Et quand il parle de l'indépendance de Radio-Canada, c'est un sujet qui va faire jaser beaucoup. On sait qu'il y a un débat là, concernant le non-financement des médias privés en comparaison avec Radio-Canada, et ça va faire jaser.
Radio-Canada fait toujours jaser, CBC encore plus, le pendant anglophone de Radio-Canada, parce que l'appropriation que la population se fait de ce réseau-là n'est vraiment pas pareil au Québec et ou du moins dans le Canada français, disons, et particulièrement au Québec et dans le reste du Canada. Autant qu'au Québec, il y a une affection envers Radio-Canada, envers sa programmation et une estime envers Radio-Canada. C'est pas toujours aussi vrai du côté anglais, où on est parfois plus porté à l'écouter d'autres médias, notamment des médias américains. Remarquez, malgré ce que je viens de dire, ça demeure vrai qu'au Québec aussi, on écoute beaucoup de médias américains, notamment sur les plateformes étrangères, notamment sur les plateformes de diffusion comme Netflix et autres. Mais à cause de ça, il y a toujours une tension sur l'approche avec envers Radio-Canada. Il y a toujours une vision idéologique à quel point l'État doit intervenir dans un média public ou pas intervenir, pardon, en termes de financement, je voulais dire, à quel point on doit contribuer ou laisser les forces du marché agir. Et donc, il y a toujours un débat entre la gauche et la droite. Ici, un débat classique entre le Parti libéral et le NPD en particulier, qui vont beaucoup vouloir défendre Radio-Canada, CBC, et du côté du Parti conservateur, qui vont plutôt vouloir s'en remettre aux forces du marché et dire que l'argent pourrait être, de la vision de ce parti politique-là, mieux utilisé ailleurs. Et avec les médias privés, pardon, aussi, qui eux aussi voient Radio-Canada comme étant pas juste une télé publique avec un mandat très spécifique, mais aussi un compétiteur lorsque Radio-Canada diffuse des émissions à grand public. Tout ça fait en sorte qu'il y a toujours ces tensions-là. C'est pour ça que d'élection en élection, la mission ainsi que le financement de Radio-Canada reviennent à l'avant-plan. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait eu ces débats hier. À tout le monde en parle sur ce sujet-là et qu'on va continuer à entendre parler au cours des prochains jours et que ça sera un enjeu, comme cela à peu près toujours lors de la prochaine campagne électorale fédérale, peu importe le moment où elle aura.
Bon, ben voilà, c'était notre analyste politique Mathieu Bélanger, le retour sur cette présence hier soir de Paul Saint-Pierre Plamondon à Tout le monde en parle, où il s'est excusé là auprès du milieu culturel. 16h13, dans un moment, Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, il sera question de la hausse du coût de l'épicerie.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Toujours 5 000 $ à gagner dimanche à 10h05 avec les trois jeux et mercredi, bingo spécial à 19h30, carte pleine à 5 000 $. Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Saint-Didas, dépanneur des Lacs. À Saint-Édouard-de-Masquinongé, quincaillerie dépanneur 348. À Saint-Angèle-de-Prémont, épicerie Jacques Lessard. À Saint-Ursule, dépanneur Marie-Lou. À Saint-Alexis-des-Monts, dépanneur Beau-Soir. À Saint-Paulin, boucherie 4 saisons. Et à Louisville, tabagie Grand-Père, dépanneur régional et dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption.
Messe de Noël à Sainte-Béatrix. Célébrons ensemble la magie de Noël le mercredi 24 décembre à 16h30 au 861A rue de l'Église. La messe sera présidée par Monseigneur Gilles Lussier, accompagné d'une chorale. Bienvenue à tous.
Le premier festival trad du sud de la Naudière culinaire débarque à l'Épiphanie pour sa quatrième édition les 23 et 24 janvier prochains. Passionnés d'activités hivernales et amateurs de musique traditionnelle vont pouvoir s'éclater. Le samedi soir à l'église, Volage et Artifice feront lever le party avec un spectacle haut en couleur. Et vendredi à la brasserie 341, ne manquez pas Mythes et Légendes pour lancer le festival en grand. Les billets sont en vente maintenant. Festival Plaisir et Tradition de l'Épiphanie, 23 et 24 janvier 2026. Pour tous les détails et la billetterie, plaisiretradition.ca.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. La toute nouvelle Nissan Leaf 2026 est arrivée en concession. Possédant jusqu'à 485 km d'autonomie, elle vous convaincra certainement de prendre le virage vert. Venez l'essayer en concession ou commandez la vôtre pour bénéficier de rabais à la location allant jusqu'à 6 000 $. Venez découvrir pourquoi Nissan a été nommée marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs par J.D. Power. N'attendez plus. Passez en concession dès maintenant au 800 boulevard Basse-de-Roc à Joliette et venez faire l'essai de la magnifique Nissan Leaf. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Lanaudière PM, consommation.
Le Bloc québécois qui demande à Ottawa d'intervenir là, pour freiner la hausse du panier d'épicerie. La semaine passée, il faut rappeler qu'il y a une étude de l'Université Dalhousie qui annonçait qu'il en coûterait plus de 1 000 $ par mois en 2026 pour une famille là, qui compte deux adultes, deux enfants. Là, 1 000 $ de plus par mois, non pas par mois, mais par année pour financer l'épicerie. C'est de l'argent quand même, 1 000 $ de plus par année. François Morin s'est entretenu avec le député de Berthier-Masquinongé, porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, Yves Perron.
Yves Perron, l'Université de Dalhousie a fait paraître tout récemment son rapport très attendu sur les prix alimentaires. On parle d'une facture annuelle moyenne de 17 572 $ pour une famille de 4 personnes, une augmentation de 1 000 $. Qu'est-ce qu'on peut faire pour venir en aide à ces familles-là?
En fait, il y a beaucoup de travail à faire là. Ça, on voit, c'est clairement que ça ne s'améliore pas. Il faut amener, je pense, l'élément clé, c'est plus de transparence dans l'industrie. Puis plus de transparence dans l'industrie, ça va aller dans plusieurs directions. D'abord, on a une étude qu'on s'apprête à commencer là au Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire sur le prix de la viande. Comment s'est fixé le prix du porc, le prix du bœuf? Parce qu'on a des producteurs agricoles qui reçoivent pas grand-chose. Puis on a une viande qui se vend à quand même pas mal cher, si vous regardez les statistiques qui sont sorties à l'épicerie. Puis là, il se passe quoi entre les deux? Puis c'est un peu la même chose pour les chaînes d'épicerie aussi, qui annoncent des profits quand même assez faramineux. Puis quand on étudie ça, vous savez qu'on a travaillé beaucoup là-dessus dans les dernières années. On se fait toujours répondre que c'est les mêmes marges, ça boite les mêmes marges sur les produits alimentaires, mais il y a quelque chose qui se passe. Et il y a de l'opacité. Donc, il y a encore des choses à faire. Entre autres, une des propositions qu'on avait formulées, c'est d'avoir un observatoire de fixation des prix. Qu'on puisse, comme État, aller voir qu'est-ce qui se passe, puis quelle marge est restée à quelle étape. Puis éventuellement qu'il y ait une intervention, parce que ça n'a pas de bon sens, là.
En attendant la venue ou l'implantation de cette nouvelle structure de contrôle, il y a le fameux code de conduite là, qui a été adopté, mais pas par tout le monde cependant.
Ouais, le code de conduite pour l'épicerie là, pour le monde de l'épicerie en général, ça vient réguler. Premièrement, ça va entrer en vigueur en janvier. Puisqu'il faut se souvenir que c'est un code volontaire hein, parce qu'il y a des enjeux de juridiction dans cette compétence là. Puis si jamais l'industrie ne s'entendait pas, c'est les provinces et territoires qui devraient légiférer là-dessus. Donc, vous imaginez le chaos de faire adopter 13 lois identiques en même temps. C'est à peu près impossible. On n'est pas capable de changer la constitution dans ce pays-là, on va se le rappeler. Donc, on a opté pour la méthode volontaire, pour laquelle il a fallu mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de pression. Encore récemment, on a reçu les gens des grandes épiceries parce que il n'y avait pas d'engagement à signer le code final. Les négociations finales, je vais vous confesser qu'elles ont été difficiles. Les grandes chaînes essayant d'avoir encore des concessions. puis utilisant encore leur tactique d'augmentation de frais déraisonnable dans les derniers mois. On dirait qu'ils se dépêchent avant que ça soit en vigueur. Mais au final, là, il devrait être signé puis devrait être en vigueur en janvier. Mais ça, ça aura pas un impact direct immédiat sur les prix. Hein. Ça va être pour retirer des pratiques déloyales, pour assurer un meilleur équilibre entre le petit fournisseur et le gros acheteur quand vient le temps de négocier, d'empêcher des amendes injustes, des choses comme ça. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je pense qu'à long terme, ça aura un effet sur les prix, mais il faut pas s'attendre à ce que l'entrée en vigueur du code de conduite en janvier vienne faire baisser le prix de l'épicerie. Là, ça n'arrivera pas. Là.
En terminant, Yves Perron, vous conviendrez avec moi que c'est sur le court terme qu'il faut agir. Le panier d'épicerie coûte plus cher pour tout le monde et ça nous inclut. Et le danger que moi je vois en tout cas, c'est qu'on risque de plus en plus se mal nourrir.
C'est pas facile, c'est pas évident, puisque les gens vont avoir tendance à faire, ça va être d'acheter des aliments de moindre qualité. Les fabricants de nourriture, eux autres aussi, vont faire de réduire la qualité des ingrédients qui sont utilisés ou réduire la quantité qui se trouve dans chaque paquet d'emballage. Donc c'est un cercle vicieux qui est infini, non? Parce que si les gens se nourrissent moins bien, éventuellement, à long terme, c'est les coûts de santé aussi. Je veux pas avoir l'air d'extrapoler trop, mais c'est ça qui va arriver, là. C'est les coûts de santé aussi qui vont exploser éventuellement. Les gens, tu sais, quand tu ne nourris pas bien, tu manges toujours la même chose. Donc, c'est important, je pense, qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Puis le travail n'a pas été fait convenablement. Faut aussi donner plus de pouvoir au bureau de la concurrence, là, pour exiger, pour bloquer certaines transactions. Vous savez, la tendance mondiale est beaucoup à la concentration. On est dans cette situation-là, dans l'épicerie, là. Ça vient pas de nulle part, là. C'est que depuis les années 80, on a laissé aller une phase de concentration, solidification qui nous amène à 5 entreprises qui possèdent plus que 80% du marché. Puis l'autre 20%, là, c'est des indépendants, des joueurs marginaux qui sont souvent fournis par les grands. Fait que c'est comme si ces grands-là possédaient l'ensemble du marché. Et entre eux autres, ben, c'est un peu comme l'essence, là. Ils se regardent d'aller, ils vont vous jurer qu'il n'y a pas de collusion puis qu'il n'y a pas de rien. Ils se regardent d'aller, puis s'il y en a un qui baisse son prix, l'autre va baisser le sien, ainsi de suite. Mais c'est beaucoup plus à la hausse qu'à la baisse que ça va, on le constate actuellement, là. Donc, c'est important que l'État mette son nez là-dedans, là.
Bon, voilà, c'était le député de Berthier-Masquinongé, porte-parole en matière d'agriculture et agroalimentaire pour le Bloc québécois, Yves Perron. Rappelons qu'il en coûterait plus de 1 000 $ par année en 2026 pour une famille là qui compte 2 adultes, 2 enfants pour se nourrir. 1 000 $ de plus qu'en 2025, c'est ce que ça va coûter. Et évidemment, ce sont des compagnies comme Kraft qui en profitent souvent avec la nourriture, ma foi, passez-moi l'expression, assez cheap, là. Et même le Kraft Dinner augmente, là, imaginez-vous. Il est 16h22.
La Naudière PM. Science.
Il y a la MRC de Matawini, l'Université du Québec en Outaouais, qui paraffe une entente de collaboration, entente qui marque une étape dans la mise en valeur des connaissances scientifiques au service du développement territorial durable. La MRC de Matawini qui se dote d'un conseiller scientifique. Il s'appelle Christian Messier. C'est un professeur, un expert mondial en foresterie, en écologie urbaine, également en gestion durable des milieux naturels. Et François Morin a eu l'occasion de s'entretenir là-dessus avec la préfète de la MRC de Matawini, Isabelle Perrault.
Isabelle Perrault, une belle nouvelle que cette entente avec l'Université du Québec en Outaouais. Ma grande question existentielle pour commencer, qui a approché qui?
C'est nous qui avons approché le professeur Messier. Ouais, parce que on a beaucoup de planification à faire. En fait, c'est vraiment le cœur de la mission d'une MRC, c'est-à-dire faire de l'aménagement du territoire. Et je trouvais que tout le volet scientifique, on a des professionnels extraordinaires, là, mais tout le volet scientifique, l'innovation scientifique, la connaissance à la fine pointe de la science, parfois ça manquait. Puis on a beaucoup de d'enjeux, hein, avec la planification du territoire, entre autres, bien sûr, les changements climatiques, mais toute la pression récréotouristique, les enjeux de biodiversité, puis on est dans une MRC où il y a de la foresterie, donc on avait besoin de cette tête scientifique-là pour pouvoir mieux répondre aux besoins de notre population.
Et c'est l'Université du Québec en Outaouais qui dispose de cette expertise-là, si je comprends bien. Là, on ne pouvait pas nécessairement se tourner du côté de l'UQTR.
Ben, en fait, c'est le professeur Christian Messier. C'est lui qui avait collaboré aussi là avec le gouvernement. C'est une sommité dans la matière. Donc, on s'est tourné vers lui puis a accepté. Donc, on est vraiment très, très, très heureux.
C'est, évidemment, on s'attend pas à des résultats à très court terme. Là. C'est quand même un travail de longue haleine parce qu'il faut effectivement là, faire de la recherche terrain.
Effectivement, ben, et puis c'est aussi d'intégrer des pratiques d'aménagement là, plus écosystémiques. Donc ça, c'est quand même quelque chose avec lequel on peut avoir des échanges rapidement. Ce qu'on veut, c'est qui nous conseille aussi sur l'équilibre entre l'exploitation forestière, la conservation, nos milieux qu'on veut protéger et tous les usages récréatifs là qu'il y a sur le territoire. On veut aussi rapidement s'adapter là avoir des plans pour s'adapter au changement climatique, tu sais, l'analyse des risques de feu par exemple ou même la tordeuse d'épinette là qui s'en vient de façon importante un peu partout au Québec, mais ça s'en vient chez nous dans la Naudière aussi, toutes sortes de maladies, les sécheresses, ces choses-là. Puis aussi essayer d'identifier les zones de conservation prioritaires avec des ceux qui ont une valeur écologique importante. C'est important qu'on puisse bien les identifier. Puis on le sait qu'on a des milieux sensibles, des milieux naturels sensibles. Donc, on veut avoir une stratégie de conservation basée sur la science.
À plus long terme, parce qu'évidemment, à travers tout ça, il y a des défis scientifiques, on vient d'en parler, les défis liés au climat, mais effectivement, il y a la bonne nouvelle potentielle également quand on parle de développement touristique.
Oui, tout à fait. Donc, s'assurer là, qu'on puisse protéger nos forêts à haute valeur écologique, qui nous propose des corridors écologiques et aussi une façon de faire de la sylviculture qui va bien harmoniser tous les usages qu'on a sur le territoire. On le sait, la forêt est maintenant de plus en plus habitée, même quand même assez au nord. Donc, il faut harmoniser ces usages-là puis s'assurer que on fasse les choses non seulement pour le bien-être des humains, mais aussi pour la conservation et l'écologie.
Comment ça va fonctionner? Est-ce que le professeur sera sur le terrain? On va l'accompagner? On va échanger? Comment ça va se passer?
Ben en fait, on va avoir des échanges avec lui. Il va même pouvoir là faire des formations, des ateliers avec les élus, les employés, les citoyens pour s'assurer de nous bien nous informer là sur par exemple l'écologie, les perturbations de l'écologie, les bonnes pratiques forestières, comment faire de la cohabitation entre usage récréatif et conservation, ce qu'on vient de discuter. Ensuite de ça, ben si on a un problème précis, par exemple lors de la préparation de notre schéma d'aménagement, ben si on a des zones qu'on est qui sont mettons identifiées pour la foresterie, ben comment on peut avoir un plan forestier. Ça relève du ministère des Ressources naturelles, mais comment on peut, nous, avec notre schéma d'aménagement, amener le ministère, tu sais, avoir des bonnes pratiques qu'on va amener au ministère des Ressources naturelles. Donc, c'est vraiment une collaboration, là. Oui, peut-être un peu terrain, là, quand on va être concrètement dans des plans d'aménagement, mais sinon, vraiment pour nous soutenir dans notre mission de protection du territoire.
Donc, ce sera une collaboration en continu parce qu'on peut y aller, là, de vitam aeternam.
Ouais. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, quand on aura je sais que ici notre ingénieur forestier disait que parfois il y avait même des problématiques qui sont soulevées qui relèvent pas nécessairement directement de la foresterie, mais le réseau du professeur Messier est incroyable là, le réseau universitaire. Donc on sera capable d'avoir aussi de façon avec une multitude de professionnels ou de chercheurs scientifiques pouvoir poser des problèmes qui relèvent pas nécessairement directement de la foresterie, mais lui a tout le réseau et les capacités là, de pouvoir nous accompagner dans d'autres types de problématiques sur le territoire, en aménagement du territoire.
Oui, merci. C'était Isabelle Perrault, la préfète de la MRC de Matawinie, les 16h28.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Métropolitaine Est pour Charles de Gaulle. Un peu dense, secteur Henri Bourassa. Léger ralentissement, là, mais ça ne dure pas. Traversée facile vers la rive nord. Repentigny, la 40 Est, un petit peu plus lourd, le secteur du boulevard industriel. Pour la suite des choses, là, ça va très bien. Pont-le-Gardeur approche facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. La 25 Nord, un peu dense à partir du Pont-Payant et ce, jusqu'à environ 500 mètres passé la jonction avec la 440. Terrebonne, ça va bien. Oui, 25 Nord. Je remarque quand même un petit ralentissement entre la 640 et l'avenue de l'Esplanade. Là, c'est un peu dense. Pont Sophie Masson, oui, c'est facile. Et finalement, autoroute 640, ça va quand même assez bien dans les deux directions entre la 25 et la 40. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Bonjour à tous les auditeurs distingués de CFNJ. En cette période festive, au nom de toute l'équipe de Pierre-Bertrand Traitement de l'eau et en mon nom personnel, j'aimerais vous exprimer notre profonde gratitude envers nos clients de la région de Lanaudière et des Hautes-Laurentides. Notre mission, guidée par l'engagement envers la qualité et la durabilité, vise à vous offrir une eau d'exception, conçue pour s'harmoniser avec votre style de vie, apportant une touche de modernité et d'amélioration au confort de votre foyer. Chez Pierre-Bertrand Traitement de l'eau, nous sommes honorés de jouer un rôle dans votre quotidien, en vous offrant l'eau à son meilleur. Merci à nos clients dévoués et à tous les auditeurs qui font de Pierre-Bertrand Traitement de l'eau un symbole de confiance. Que ces fêtes soient source de moments inoubliables.
Le premier festival trad du sud de Lanaudière débarque à l'Épiphanie. Pour sa quatrième édition, les 23 et 24 janvier prochains, passionnés d'activités hivernales et amateurs de musique traditionnelle vont pouvoir s'éclater. Le samedi soir à l'église, Volage et Artifice feront lever le party avec un spectacle haut en couleur. Et vendredi à la brasserie 341, ne manquez pas Mythes et Légendes pour lancer le festival en grand. Les billets sont en vente maintenant. Festival Plaisir et Tradition de l'Épiphanie, 23 et 24 janvier 2026. Pour tous les détails et la billetterie, plaisiretradition.ca.
Jusqu'au 24 décembre, participez au concours Calendrier de l'Avent, 40 jours pour les 40 ans de CFNJ. Des prix à gagner, de l'échappée Grille Bar Sportif, son X Plus Joliette, fromagerie Victoria de Berthierville, domaine Bazinet de Saint-Émilie, la terrasse chez Donat de Saint-Jean-de-Mata, le centre culturel Desjardins de Joliette, Bois et Tétois, les galeries Joliette et la dernière porte du 24 décembre, une génératrice Honda d'une valeur de 1 500 $ offerte par Moto du Charme de Joliette. Un gagnant par jour et un finaliste pour la génératrice tous les jours jusqu'au 24 décembre. Inscription à cfnj.net, section concours. Il faut être membre de CFNJ. Pour le devenir, c'est simple. Allez dans l'espace membre à cfnj.net. Bonne chance!
À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption.
Son X Plus Joliette est fier de vous accueillir au 58 rue Babie depuis 2005. Fondée en 1981, notre entreprise met à votre service de l'expertise en système de son, cinéma maison, audio multipièce, domotique, sécurité, caméra de surveillance, réseau informatique, téléviseur et installation professionnelle. Nous offrons des solutions sur mesure conçues pour répondre aux besoins spécifiques de votre maison ou de votre entreprise. Faites confiance à Son X Plus Joliette, toujours prêt à surpasser vos attentes. SonXPlusJoliette.com.
L'actualité de ce lundi 8 décembre, en manchette, une dame meurt gelée à Laval. Encore des révélations au Parti libéral du Québec et le Bloc québécois demande qu'on freine la hausse du panier d'épicerie. Et Pierre Jubinville, tout d'abord, un grand succès pour la guignolée des médias.
Oui, on va commencer ça par une bonne nouvelle aujourd'hui. La guignolée des médias de jeudi dernier a permis d'amasser 46 600 $. C'est 6 000 de plus que l'an dernier. La directrice générale de Moisson Lanaudière, Céline Gauthier, évidemment remercie tout le monde et explique ainsi l'augmentation des dons.
Je pense que les gens sont de plus en plus conscients qu'il y en a qui mangent pas à leur faim et que la solidarité sociale doit se manifester à un moment donné, puis ça, c'est un bel exemple. C'est le résultat de ça, une conscientisation plus grande, mais également une volonté de partage aussi. parce que c'est ce qu'on a recueilli durant la journée du 4 décembre, mais ça va aller en achat de denrées, ça c'est clair.
L'objectif de la campagne cette année, 250 000 $.
Pierre, un décès tragique dans une résidence pour aînés à Laval, là, c'est pas sans rappeler ce qui s'est passé il y a quelques années avec la mère de Gilles Duceppe.
Également dans les mêmes circonstances. Mm-hmm. Alors, c'est une femme de 88 ans qui a été retrouvée morte ce matin à l'extérieur de sa résidence pour personnes âgées à Laval. Sa famille accuse la RPA d'avoir été grandement négligente.
C'est un peu avant 7 heures et alors qu'il faisait très froid que la dame de 88 ans, qui n'est pas autonome selon sa famille, a été retrouvée dans la neige à quelques dizaines de mètres à peine de la porte principale de la résidence Villaggia où elle habitait. Marc-Olivier Nau est le petit-fils de la victime.
Je ne peux pas concevoir qu'on paye 4-5 000 $ par mois. Puis là, vous me dites, est-ce que quelqu'un a pu sortir comme ça?
Il ne comprend pas que sa grand-mère ait pu quitter la résidence alors qu'on lui assure qu'il y a une surveillance 24 heures sur 24 et un système pour encadrer les cas d'errance.
Elle est morte gelée. Pensez-y, là. Elle est morte gelée. Ça n'a aucun sens.
Surtout que ce n'est pas la première fois que sa grand-mère sortait en pleine nuit.
C'était passé la même chose. Elle était sortie pendant la nuit. Il faisait 25 degrés, fait qu'évidemment, il n'y a rien qui s'est passé.
Une coroner fait enquête dans ce dossier. Philippe Bonneville, Cogeco Nouvelle, Laval.
Peut se poser de grandes questions au niveau de la sécurité et de la surveillance.
Oui.
De nouvelles révélations, Pierre, concernant le Parti libéral du Québec.
Oui, l'équipe de Pablo Rodriguez a donné un total de 14 000 $ en compensation à certains bénévoles, dont la plupart sont issus du Parti libéral du Québec. Raison, elle avait amassé trop d'argent. Alors, c'est ce que le représentant financier de Pablo Rodriguez a expliqué aujourd'hui en réaction aux informations du Journal de Montréal, révélant qu'Élections Québec s'intéressait à des paiements identiques de 1 000 $ faits justement à 14 personnes, dont Geneviève Hinze, qui est l'ancienne chef de cabinet de Marois Risky.
On aura l'occasion de revenir là-dessus d'ailleurs tout à l'heure avec Pierre Paquette. Le suspense qui demeure entier chez Air Transat?
Oui, on négocie toujours avec les pilotes. Une grève pourrait déclencher mercredi, mais le transporteur aérien a bon espoir de s'entendre d'ici là. Il doit toutefois se préparer dès maintenant, comme l'indique le vice-président à l'exploitation et commandant chez Air Transat, Dave Bourdage.
Au moment où on se parle, les avions qui sont dans les airs pour aller récupérer plus de gens dans le sud, le plan de rapatriement permet de ramener les gens rapidement et de le faire de façon ordonnée, de façon structurée, et on va faire la même chose demain. Et à ce moment-là, je le répète, notre objectif est évidemment d'avoir une entente qui est négociée à la table, d'éviter le conflit de travail.
Maintenant, le Bloc québécois demande de freiner la hausse du prix des aliments.
Ouais, la semaine dernière, une étude de l'Université Dalhousie avançait qu'il en coûterait plus de 1 000 par année en 2026, donc pour une famille comptant deux adultes et deux enfants. Le député de Berthier-Masquinongé, porte-parole du Bloc en agriculture, Yves Perron, a indiqué qu'un comité des communes va commencer une étude sur la hausse du coût de la viande. Selon M. Perron, l'industrie doit être transparente, sans quoi la qualité de l'alimentation risque d'écoper.
Les fabricants de nourriture, eux autres aussi, vont faire de réduire la qualité des ingrédients qui sont utilisés ou réduire la quantité qui se trouve dans chaque paquet d'emballage. Donc, c'est un cercle vicieux qui est infini, non? Parce que si les gens se nourrissent moins bien, éventuellement, à long terme, c'est des coûts de santé aussi.
L'ouverture des commerces le soir sera permise un petit peu partout au Québec.
Oui, oui. Dès mars 2026, les commerces de toute la province pourront ouvrir sur une base volontaire, cependant, de 6h à 21h, du lundi au dimanche.
On peut se poser des questions aussi par rapport à certains commerces là, qui ont de la difficulté à recruter des employés. Là,
absolument.
Ça complique les choses.
Ce sont des coûts supplémentaires.
Mm-hmm. Les études d'impact en environnement pourront se réaliser plus rapidement.
Oui, Québec souhaite couper de moitié les délais d'évaluation environnementale pour les grands projets. Bernard Drinville, le nouveau ministre de l'Environnement, assure pouvoir y arriver sans compromettre la qualité du processus.
Les experts du gouvernement disposent d'un maximum de 18 mois pour étudier l'impact environnemental d'un grand projet. Ils devront bientôt y parvenir deux fois plus rapidement.
Un maximum de 9 mois. C'est un gain concret pour nos entreprises.
Le ministre Bernard Drinville assure néanmoins que ce changement ne se fera pas au détriment de l'environnement.
Accélérer ne veut pas dire baisser nos standards.
Les modifications, dit-il, vont surtout simplifier les interactions entre les fonctionnaires et les promoteurs.
On passe d'une procédure un petit peu zigzag à une procédure en entonnoir.
Qui, eux, devront arriver mieux préparés.
Les promoteurs vont devoir être meilleurs quand ils vont déposer leur avis d'intention.
Malgré les coupures de postes amorcées dans la fonction publique, le rôle du BAP, lui, est appelé à augmenter.
Au contraire, on renforce le rôle du BAP.
Philippe Rodrigue, Comeau, Cogeco Nouvelles, Québec.
Oui, puis encore des problèmes maintenant, terminant là, avec le traversier, le Saint-Ignace de Loyola, Sorel-Tracy.
Interruption de service cette nuit pour des travaux d'entretien planifiés d'un débarcadère. Donc, le service sera interrompu entre 23h et 4h30 demain matin.
Merci beaucoup, Pierre Jubinville. 16h39.
Lanaudière PM. Lanaudière PM.
Claude Fournel.
Lanaudière PM. Famille.
Ah, la magie du temps des fêtes s'est aussi emparée du Vieux-Terrebonne en fin de semaine avec une nouvelle édition du marché de Noël à l'île des Moulins. Les organisateurs ont un objectif cette année, c'est battre le record de visiteurs qui a été établi l'an passé, comme l'explique Claude-Éric Provost, qui est directeur général et artistique de la nouvelle société, à notre collègue Régent Turgeon.
C'est pour vous une autre édition du marché de Noël de Terrebonne. C'est devenu un incontournable.
Absolument. Je suis content que vous le mentionniez parce que nous, on juge que c'est devenu un incontournable et ce l'est. Juste pour vous donner une petite idée, là, moi, quand je suis rentré, là, ça va faire 4 ans. Et puis, on est passé d'une vingtaine de milliers de participants, de visiteurs, à 30 000 l'an dernier. Alors, cette année, on a l'ambition de battre ce record-là encore une fois. Et puis, on est très fiers d'où est rendu ce festival-là.
Le défi, effectivement, d'un marché de Noël, c'est de se revamper, de changer la recette. Est-ce que c'est encore fait cette année?
Tout à fait. Ça fait partie de nos valeurs d'être toujours dans la nouveauté, dans l'action, dans le développement. Alors, on veut que cet événement-là marque l'imaginaire et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, beaucoup d'animation autour de... évidemment, il y a le marché de Noël traditionnel qu'on connaît avec les maisonnettes, etc. Puis l'ambiance qui est autour de ça. Mais nous, c'est ça. On travaille beaucoup sur l'animation, ce qui va venir ajouter le petit plus qui va faire en sorte que toutes les familles sont contentes de venir visiter le marché Noël. Je vous donne comme exemple cette année là avec on a signé une super entente avec le ministère de la Culture là pour un projet ponctuel là, d'art numérique. Alors il y aura une très belle projection. Je me rappelle plus exactement de l'horaire, mais chaque soir il y aura cette projection là qui dure une heure et demie sur la façade d'un des bâtiments historiques qu'il y a sur l'île. Donc on ajoute comme ça d'année en année des animations artistiques, de la programmation artistique qui ajoute vraiment, qui est la touche Nouvelle Société, qui est la touche du marché de Noël de Terrebonne.
Marché de Noël, ça veut dire acheter des cadeaux, venir voir quels sont les produits. Ça prend des artisans, des exposants, ils sont au rendez-vous encore?
Absolument, plus que jamais. Même cette année, on a réparé 5 de nos maisonnettes qui commençaient à avoir besoin d'amour. On en a commandé 5 nouvelles, donc je me souviens plus du décompte exact, mais c'est une quarantaine de maisonnettes, donc il y a plus d'exposants que jamais. On les sélectionne avec soin pour que les gens, justement, ils trouvent leur compte, puis on s'arrange aussi pour qu'il n'y ait pas 3-4 kiosques ou 3-4 exposants ou artisans avec le même... La même offre. Donc, on a une belle offre diversifiée et très intéressante pour la clientèle.
Un marché Noël, ça veut dire des retombées économiques pour les exposants. En termes de chiffre d'affaires, est-ce qu'on peut les quantifier? Ces gens-là sont là une fois par année, mais ça compte pour quel pourcentage de leur chiffre d'affaires annuel? C'est important pour eux?
C'est évidemment très important. C'est pour ça que d'année en année, ils reviennent. Évidemment, il y a des chiffres là-dedans qu'on peut pas dévoiler parce que ce sont tous et toutes des entreprises privées, mais assurément, comme je vous dis, ils reviennent. Et puis, au-delà des artisans, des commerçants qui sont là au marché directement, c'est tous les commerçants du Vieux-Terrebonne qui gagnent. On pense d'abord aux restaurateurs parce qu'il y en a beaucoup. Il y a une grosse concentration dans le Vieux-Terrebonne. Alors, eux, c'est un mois qui est très intéressant pour eux, mais exactement également tous les boutiques qu'il y a dans le Vieux-Terrebonne aussi qui vont attirer une clientèle avec le marché.
Est-ce qu'on fait encore cette année du battage publicitaire autour du marché de Noël? Est-ce qu'on a investi davantage ou bien si on s'en remet au bon vieux bouche-à-oreille?
Et je vous dirais que c'est comme une légende urbaine. Hein? La bouche-à-oreille, c'est très puissant, mais dans un événement comme celui-là, qu'on veut d'envergure, il y a trois marchés plus importants, je dirais, là, le marché Noël dans la Naudière. Et puis, ben évidemment, là, je suis certain que c'est les deux autres marchés aussi. On met beaucoup d'argent en promotion parce que on veut se démarquer, on veut attirer la clientèle aussi, attirer la clientèle de l'extérieur. C'est d'abord un événement que l'on veut pour nos citoyens, mais également pour les visiteurs.
Vous parliez tantôt, ou je parlais tantôt des bénévoles que ça prend, mais ici, on parle de personnel, là.
Oui, écoutez, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans un événement comme ça. Ça a déjà été géré par des équipes de bénévoles. Là, je vous dirais que ça se peut plus. Pas avec le modèle d'affaires qu'on a ici. C'est les employés de la nouvelle société qui mettent l'épaule à la roue. Et là, c'est des dizaines et des dizaines d'employés là dans toutes les équipes. Là, les équipes de techniciens qui sont là pour son éclairage. Et comme je vous disais, on met une emphase assez importante là-dessus. C'est une de nos expertises. Le spectacle et tout ça, donc on veut en mettre plein la vue. Après ça, on a une équipe, nous, qui est dédiée aux événements, donc le marché Noël, c'est leur dossier prioritaire pour cette période-ci de l'année. Les équipes en support administratif, etc., donc les agents de terrain que les gens peuvent croiser à longueur d'année là, dans l'île des Moulins, ben eux aussi, là, c'est un mois extrêmement occupé, mais ils sont très heureux de contribuer. Là, c'est un bel événement pour nous.
Régent Turgeon qui s'entretenait avec Claude-Éric Perron. Il est directeur général et artistique de la nouvelle société qui chapeaute le marché de Noël à l'île des Moulins. On est choyé dans la Naudière de beaux marchés de Noël, celui de l'île des Moulins, celui de l'Assomption également, celui du centre-ville de Joliette là, sur la place Bourget où je vais aller faire un tour en fin de semaine. J'aurai l'occasion de vous en reparler cette semaine. Dans un moment, Pierre Paquette.
CFNJ, avec vous partout via l'application CFNJ sur vos appareils Android et Apple.
À l'Assomption, l'histoire s'anime, la ville s'éclaire. Pendant les fêtes, venez découvrir les projections spectaculaires et le parcours historique inédit de Cité Mémoire. Une expérience immersive gratuite au centre-ville de l'Assomption.
Le premier festival trad du sud de la Naudière débarque à l'Épiphanie pour sa quatrième édition les 23 et 24 janvier prochains. Passionnés d'activités hivernales et amateurs de musique traditionnelle vont pouvoir s'éclater. De samedi soir à l'église, Volage et Artifice feront lever le party avec un spectacle haut en couleur et vendredi à la brasserie 341. Ne manquez pas Mythes et Légendes pour lancer le festival en grand. Les billets sont en vente maintenant. Festival Plaisir et Tradition de l'Épiphanie, 23 et 24 janvier 2026. Pour tous les détails et la billetterie, plaisiretradition.ca.
Le festival Chantez-vous bien chez nous revient pour une 21e édition les 21 et 22 février à Saint-Bernard-de-Michauville. Débutant avec la traditionnelle confiture à l'école en après-midi le samedi, Lila le bon temps, Garçon à marier et Le Vent du Nord seront les invités en soirée. Yaël Azoulay sera au calme pour la danse du dimanche. Elle sera accompagnée de Régent et André Brunet, André Gagné et Olivier Demers. Pour plus d'informations, chantezvous.com ou écrivez à info@chantezvous.com.
Combattre le froid par le froid. C'est ce que propose la fromagerie Victoria de Berthierville avec sa crèmerie ouverte à l'année. Crème glacée molle, Vic Mix, Sundae, Slush, trempage de chocolat belge, on en a vraiment pour tous les goûts. En salle à manger, au service au volant ou en livraison, pas besoin d'attendre l'été pour vos plaisirs glacés. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury à Berthierville.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Procurez-vous le tout nouveau Rogue 2026 à un taux de financement aussi bas que 0,9% en location 36 mois. Conçu pour nos hivers, vous pourrez braver la neige en toute sécurité. Passe en concession dès maintenant au 800 boulevard Bas-le-Roc à Joliette et découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Bonne fin de journée, Pierre.
Oui, bonne fin de journée à toi aussi.
Journal de Montréal ce matin qui racontait là, qu'Élections Québec veut comprendre pourquoi la majorité des employés qui sont liés au Parti libéral du Canada et qui ont aidé Pablo Rodriguez dans sa campagne à la chefferie du Parti libéral du Québec ont reçu 1 000 $.
Oui, ben en fait, c'est des gens qui ont travaillé bénévolement
Il aurait reçu 1 000 ben, il a reçu 1 000 ça a été confirmé par le parti pour service rendu. Et il semblerait que cet argent-là venait d'un surplus du financement de la campagne de Pablo Rodriguez et que le Parti libéral pouvait pas l'accepter comme montant. Donc, ils ont trouvé comme solution de le remettre aux gens qui avaient été des bénévoles les plus actifs.
Ben justement, ça le dit, bénévole. Un bénévole n'est pas salarié. Et puis, si je remarque, la plupart de ces bénévoles-là, ben on fait des dons de 500 $. Oui. Donc, je te donne 500 $, tu me redonnes 1000 $, donc je fais un profit de 500.
Oui, il y a ça, mais en même temps, il y en a qui n'ont pas donné d'argent puis qui ont reçu 1000 $ aussi.
Oui, oui.
Alors, ben c'est pour ça que Élections Québec va enquêter, et puis ça, c'est une bonne nouvelle parce que on aimerait savoir la vérité. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'accusations formelles qui ont été déposées contre le Parti libéral ou l'équipe de Pablo Rodriguez, mais évidemment, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit, donc les gens se disent, il y a sûrement quelque chose. Donc, on voudrait connaître le fond de l'affaire, d'autant plus qu'il y a plusieurs affaires là-dedans qui s'entremêlent.
Oui.
Bon, il y a l'affaire des Brownies, ça a l'air d'être une autre chose.
Oui, mais avec les révélations d'aujourd'hui, Pierre, on commence à comprendre certaines choses par rapport à Marois Risky et le congédiement de Geneviève Hinds.
Oui, mais pourquoi elle l'a pas expliqué? C'est ça qui est incompréhensible. Pablo Rodriguez a dit pendant 2 semaines, j'attends qu'elle m'en parle, j'ai essayé de la rejoindre. C'est ça qui est incompréhensible, à moins que, disons, elle ait un agenda caché puis qu'elle veuille saboter le leadership de Pablo Rodriguez.
Ben, moi, je le dis depuis le début.
Ça peut ressembler à ça.
Si ouais. Marois Risky en a pas parlé ou a pas expliqué, a pas donné de détails là-dessus, c'est parce qu'il y a une enquête, justement.
Ben, il n'y avait pas d'enquête à ce moment-là. Elle aurait pu l'expliquer à Pablo Rodriguez, puis Pablo aurait été obligé de le dire, parce que jusqu'à présent, elle a continué à être elle n'a pas parlé. Là, depuis ce temps-là, il y a une enquête qui est faite par le Parti libéral, le juge Fournier, je pense, qui est à la retraite, qui va mener une enquête qui devrait donner... Ça, c'était sur les Brownies, là, qui devrait se conclure en janvier. Il y a... le DGE, le directeur général des élections, qui fait une enquête sur, entre autres, les 1000 $ d'où ça vient.
Ouais.
Et on nous dit que l'UPAC serait intéressé, mais en même temps, l'UPAC n'a pas donné signe de vie non plus. Alors, donc, tout ça est assez nébuleux. Et puis, bon, on aimerait connaître exactement ce qu'il y en est, mais tout ça entache, malheureusement, je dois le dire, le leadership de Pablo Rodriguez.
C'est clair.
On sait qu'il y a une pétition qui circule, puis il est un petit peu comme impuissant face à ça, parce que, encore une fois, c'est toutes des allégations avec des... aucune accusation qui est portée, aucune... parce que là, semble-t-il que le 1000 $ en question, ça serait pas illégal non plus, pas plus que les Brownies étaient pas illégales.
Non, mais ça paraît pas bien.
Non, c'est ça. Ça paraît pas bien. Et on sait qu'en politique, les apparences, c'est aussi important que la réalité. Mais encore une fois, c'est vraiment dommage, je trouve, comme situation. Pour Pablo, bon, évidemment, le Parti libéral, c'est pas moi qui vais pleurer dessus, là, mais ce que je trouve d'une certaine façon qu'il est impuissant face à la situation, parce que c'est toutes des allégations. Et puis, il y a pas moyen de s'en sortir pour lui là actuellement. Il faudrait que véritablement le DGE fasse une enquête. Il le fait d'ailleurs, mais avec des conclusions. L'UPAC, je pense que c'est pas sérieux, moi, personnellement. Et puis, je m'attends pas à grand-chose de l'enquête du juge Fournier, là, parce que ça va être très difficile d'avoir des confessions de personnes qui veulent rester anonymes.
Hein. Et toi, tu demeures convaincu que c'est une grosse surprise pour Pablo Rodriguez qui était au courant de
moi,
rien.
Je le connais quand même assez bien. Là, j'ai été avec lui à la Chambre des communes pendant plusieurs années. Je crois pas que ce soit quelqu'un qui soit comme ça. Malheureusement pour lui, puis je lui avais dit d'ailleurs, je l'ai dit à l'émission plusieurs fois.
Oui, mais peut-être que lui n'est pas comme ça, mais Parti libéral du Québec et le Parti libéral fédéral, c'est ça.
C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, le problème, c'est pas toi, c'est le Parti libéral du Québec. Et là, on voit que, bon, que ce soit des employés qui étaient, je pense à Geneviève Hinds.
Ben oui, mais justement, son nom revient à la surface parce qu'elle-même, elle a donné 500$ et elle a reçu 1000$.
Oui, ben qu'elle donne 500$, c'est pas tellement surprenant puisqu'elle était sa chef de cabinet à Ottawa. et elle s'en va à Québec. Et là, elle reçoit 1000 $ comme 13 autres personnes. Bon, évidemment, ça crée une... moi, je pourrais dire ça, une certaine... une sensation de collusion.
Mais moi, j'ai l'impression que c'est la vieille garde du Parti libéral du Québec, dont Marois Risky faisait partie, qui, voyant ça et voyant des gens arriver d'Ottawa, se sont dit « Non, ça marche pas comme ça, là. Il y a quelque chose qui cloche, là. »
Oui, peut-être, mais en même temps, on sait que le Parti libéral du Québec s'est jamais trop soucié des questions d'éthique. Alors, c'est ce qui vient. Non, mais c'est ce qui vient rajouter au fardeau du pauvre Pablo, c'est que il arrive dans un parti qui a malheureusement une tradition de pas de collusion.
Mais non, mais on repense à l'époque Jean Charest, c'est sûr.
Ouais, Jean Charest, les contrats qui ont été donnés. Donc tout ça fait en sorte que on est dans une situation où il y a un gros bénéfice du doute qui est pour le fait qu'il y avait un système mis en place, mais en même temps on n'a pas de preuve. Alors je sais pas comment est-ce que Pablo Rodriguez est capable de se dépêter de tout ça, à moins que le DGE là, rapidement fasse la lumière sur les 1000 $ l'effet que c'est possible. C'est quelque chose qui est légal ou pas.
Bon, ben,
aussi, il y a la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale qui fait enquête sur les députés là, dont on allègue qui ont utilisé la technique des brownies. Encore une fois, c'est pas illégal, mais disons que ça manque un petit peu de fini.
Chose certaine, c'est une autre semaine qui démarre difficilement là, pour Pablo Rodriguez. Merci, Pierre Paquette.
Oui. Merci.
On se reparle demain. Demain.
Oui, demain, c'est ça. Je remplace Jacques. Ouais. OK, je vais être là.
Salut, Pierre.
Comment ça, l'homme? Bye.
Lanaudière PM. Communautaire.
Ouais, on parlait de la guignolée des médias qui a été un grand succès encore une fois cette année. La directrice générale de Moisson Lanaudière, Céline Gauthier, qui remercie les Lanaudois, et Pierre Jubainville a eu l'occasion de lui parler un peu plus tôt.
Donc, la journée média dans les rues a été un grand succès la semaine dernière?
Tout à fait. Écoutez, on a ramassé 46 600 $ par une journée qui a commencé tout en douceur, mais qui, après ça, le vent s'est levé puis il s'est mis à faire froid. Écoutez, les Lanaudois sont d'une générosité extraordinaire. Vraiment, là, on apprécie. 46 600 $ pour une journée, c'est tout un succès.
Et c'est beaucoup plus d'argent que l'an passé.
Tout à fait. On a quand même 6 100 $ de plus que l'an dernier. Pour une journée. Donc, c'est extraordinaire, là. C'est quelque chose, là. Vraiment, on apprécie vraiment la générosité de tous les Lanaudois. Puis, je dois aussi souligner tous nos bénévoles et mon équipe qui étaient dans les rues. C'est vraiment extraordinaire. Je les remercie chaleureusement, là, d'avoir été là pour moi, son Lanaudière.
Dans ce contexte difficile que l'on vit actuellement, à quoi attribuez-vous ce succès, cette hausse même des redevances?
Écoutez, je pense que les gens sont de plus en plus conscients qu'il y en a qui mangent pas à leur faim et que la solidarité sociale doit se manifester à un moment donné, puis ça, c'est un bel exemple. C'est le résultat de ça, une conscientisation plus grande, mais également une volonté de partage aussi. Parce que c'est ce qu'on a recueilli durant la journée du 4 décembre, mais ça va aller en achat de denrées, ça c'est clair.
Et ça se poursuit, là, ça s'arrête pas à jeudi dernier là, pour la cueillette
non.
De fonds.
Vous avez raison, ça va se poursuivre tout le mois de décembre et je vous rappelle qu'on a un objectif quand même de 250 000 $ cette année. Alors, c'est toujours possible de faire un don à moissonlanaudière.org et vous pouvez même venir nous voir pour faire déposer votre don à Moisson Lanaudière au 1450 rue de Lanaudière. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir.
Voilà, c'était Céline Gauthier, la directrice générale de Moisson Lanaudière, et j'en profite pour saluer et remercier l'équipe de CFNJ là, qui s'est impliquée bénévolement encore une fois cette année. C'est tant mitouflé pour aller recueillir vos dons au coin du Rang Sainte-Julie et du boulevard Antonio-Barrette jeudi dernier. On me disait que les gens ont été très, très généreux. Parfois, ça donnait une poignée de change et d'autres fois, là, jusqu'à des gros bills de sang. Bravo. Merci tout le monde. Merci autant à la population que l'équipe de CFNJ qui s'est impliquée dans cette journée de la grande guignolée des médias. J'en profite pour saluer nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, Mathieu Bélanger, François Morin, Pierre Jubinville, Régent Turgeon, ainsi que Pierre Paquette. Ici Claude Fournel, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Justin Lapierre s'en vient dans un instant pour vous présenter le 5 à 7 parades. Ce sera suivi de la série T-shirt, jeans, baskets qui reçoit ce soir la formation Écorce directement du studio conférence de CFNJ. Mais quant à nous, on sera de retour demain à 16h pour une autre édition de Lanaudière PM. Salut, bonne soirée!